Le journal est présenté par Laura Dulieu.
Bonjour à toutes et à tous. La tension toujours aussi vive dans le détroit d'Hormuz après la saisie par les Iraniens d'un pétrolier battant pavillon britannique. Le secrétaire au Foreign Office, Jeremy Hunt, a déclaré hier que la saisie par l'Iran du tanker Stena Impero dans le Golfe montrait que Téhéran était vraisemblablement en train d'opter pour un comportement illégal visant à déstabiliser la situation. Mais les incidents de ce type pourraient bien se répéter à l'avenir. Les explications de Nathanaël Charbonnier.
Jusqu'où peut-on aller trop loin? C'est la question avec laquelle jouent les Iraniens depuis plusieurs semaines et tous les événements qui se déroulent dans la région sont là pour le rappeler. Sabotage de navires, arrestation de pétroliers, arrestation de chercheurs comme celle de la Française Fariba Adelra. L'Iran non seulement teste la résistance de la communauté internationale, mais en profite aussi pour engranger des munitions qui serviront tôt ou tard à la négociation. La stratégie est celle de la pelote de laine, faire grossir le contentieux de telle sorte qu'à la fin, on ne sache plus trop par où commencer pour démêler l'affaire. En jeu, évidemment, l'accord sur le nucléaire dénoncé par le président américain Donald Trump. Mais l'enjeu est aussi interne. Les mollahs savent que leur crédit auprès de la population fond avec la crise économique qui secoue le pays. Ils ont besoin de faire vibrer la fibre patriotique et de rassembler autour du thème « l'Iran est agressé ». Autant dire que l'affaire n'est pas terminée et qu'il faut s'attendre d'ores et déjà à d'autres épisodes dans ce dossier.
Nathanaël Charbonnier. Le secrétaire d'État américain Mike Pompeo conclut à Mexico une tournée en Amérique latine qu'il a menée dans plusieurs pays, dont l'Équateur, le Salvador et le Mexique. Un voyage marqué par la préoccupation du gouvernement de Donald Trump pour l'immigration illégale. Ce dimanche, Mike Pompeo rencontrera son homologue mexicain Marcelo Ebrard pour évaluer le pacte migratoire. L'accord conclu début juin, le Mexique s'engageait alors à réduire le passage de migrants venus d'Amérique centrale afin d'éviter l'imposition de taxes douanières sur les produits mexicains. Correspondance d'Emmanuel Stills à Mexico.
45 jours sont passés depuis que le Mexique a accepté de devenir la police migratoire des États-Unis et d'intercepter les milliers de centra-américains en route vers ce pays. Le temps est venu d'évaluer le pacte scellé entre les gouvernements de Donald Trump et d'Andrés Manuel López Obrador en juin. Les résultats présentés ce dimanche par le ministre mexicain des Affaires étrangères Marcelo Ebrard devraient satisfaire son homologue américain Mike Pompeo. Avec la garde nationale déployée à ses frontières sud et nord, le Mexique est parvenu à arrêter et expulser des milliers de migrants. Pour la première fois en plusieurs mois, le nombre de centra-américains arrêtés sur la frontière entre les deux pays a considérablement chuté. Le gouvernement mexicain invoque une diminution de 40% des migrants qui traversent son territoire. Ce bilan devrait permettre au Mexique d'éviter les taxes douanières brandies comme menace par Donald Trump. Mais cette politique bafoue l'engagement de López Obrador de laisser les centra-américains traverser librement le territoire mexicain. Son gouvernement prépare un plan pour le développement du Guatemala, du Salvador et du Honduras afin d'enrayer l'émigration causée par la violence et l'absence d'opportunités dans ces trois pays d'Amérique centrale.
Emmanuel Stills. La pression de Washington dans sa guerre commerciale avec la Chine n'y est sans doute pas pour rien. Pékin a annoncé hier son intention d'ouvrir plus largement son secteur financier aux investisseurs étrangers. Une décision qui prendra effet dès l'an prochain, soit avec un an d'avance sur le calendrier prévu initialement. Les explications de Daniel Haber, professeur d'économie internationale.
Écoutez, la Chine est dans une phase de négociation très intense avec les Américains et la menace d'une hausse très élevée de droits de douane sur tous leurs produits industriels restant encore libres de droits. Donc il faut qu'ils trouvent des choses à proposer aux Américains et les Américains sont très demandeurs d'une libéralisation du secteur financier. Les banques, les investissements, les assurances, ce sont des secteurs énormes dans le monde, mais surtout dans le monde développé, et surtout aux États-Unis, mais aussi chez nous en France et en Europe. Donc pour les Chinois, c'est une proposition qui a du sens. Est-ce que ce sera suffisant aux yeux d'Américains? Ça, c'est pas sûr. Alors le vrai problème, c'est est-ce qu'au bout d'un an, on aura une liberté totale de s'installer en Chine pour faire de la banque et de l'assurance? Ça, c'est encore moins sûr. Les restrictions du passé, c'était plutôt nous obliger à avoir des partenaires, nous obliger à aller, par exemple, nous installer dans des villes qui n'étaient ni Pékin ni Shanghai parce que les Chinois voulaient décentraliser un petit peu l'activité économique. Aussi, pour les banques, une certaine forme d'interdiction de faire de la banque de détail, de s'adresser directement au peuple chinois, plutôt faire de la banque d'affaires entre entreprises. Donc, tout ça n'est pas encore bien clair, mais bon, c'est un problème. premier pas et ça va s'ajouter certainement à d'autres choses que les Chinois essaient de rassembler un petit peu désespérément pour éviter le pire vis-à-vis des Américains.
Daniel Haber en ligne avec Nabila Hamel. Et les mauvais signaux économiques annoncés en début de semaine par la Chine semblent également avoir eu raison de ses réticences. La croissance chinoise a signé au second trimestre sa plus faible performance depuis au moins 27 ans, soit quand même 6,7%. En France, entre 1500 selon les gendarmes et 5000 personnes selon les organisateurs ont participé hier à la marche en mémoire d'Adama Traoré, mort le 19 juillet 2016 après une interpellation. C'était à Beaumont-sur-Oise et cette année l'appel était au rassemblement contre les violences policières. Des gilets jaunes étaient aussi dans le cortège. Ce n'est pas courant et pour cause. Kaina Bahloul est la première femme imam de France à 40 ans. Cette islamologue de formation s'est lancée dans un projet fou, créer une mosquée mixte dont elle dirigerait les prières alternativement avec un imam homme. L'idée séduit tout le monde, mais pour le moment seulement sur le papier. Wafa Kenich les a rencontrés.
Ne vous fiez pas au sourire de Kaina Bahloul, il ne dit rien de ce que cette brune aux cheveux longs et au regard azur a vécu lors de la décennie noire en Algérie. À l'époque, elle n'avait pas 15 ans.
Enfant, je n'arrivais pas à comprendre. La seule protection que j'avais, c'était de prendre mes distances par rapport à la religion. En grandissant, à l'âge adulte, j'ai commencé à faire des recherches. Et c'est là que j'ai commencé à me dire, donc si on peut questionner les interprétations des textes coranique, alors pourquoi ne pas le faire aussi en tant que femme ?
En 2003, Kaina Bahloul poursuit sa réflexion en France. Elle y rencontre Fakhar Korshan et très vite, ils ont l'idée d'une mosquée mixte. À tour de rôle, ils mèneraient la prière du vendredi, un projet déjà critiqué.
On nous dit, vous répondez à l'injonction, l'islam de la République, donc l'islam de Macron. Non, non, l'imamat féminin, ça existe, ça a été pris en charge par les penseurs musulmans il y a déjà 1000 ans et même plus que ça.
Avant même l'ouverture de cette mosquée, Kaina Bahloul est d'ailleurs déjà imam depuis mars 2018.
Mon premier office religieux a été une prière mortuaire dans un cimetière de la région parisienne. Symboliquement, je crois que c'est pas rien. Voilà, dans l'histoire de la pensée musulmane, quelque chose qui est en train de quelque chose de révolu, qui est en train de mourir et qui va donner naissance à du renouveau, je l'espère en tout cas.
Kaina Bahloul est aussi sollicitée pour célébrer des mariages mixtes. De jeunes musulmans l'appellent également pour lui dire « Enfin, vous réconciliez les femmes et l'islam ».
Wafia Kenich. La météo pour finir. Le ciel devrait rester sec ce matin malgré des nuages parfois nombreux. Et côté température, c'est autour de la Méditerranée qu'il fait le plus doux avec 22 degrés en moyenne. Ailleurs, il fait 20 degrés à Strasbourg, 22 à Lyon, 17 à Orléans et 16 à Lille.